Bonjour à tous ceux que j'ai pas pu saluer. On peut penser aussi dans la prière à Evelyne Bruniquel, que j'ai eu la joie d'aller visiter avec Jacques hier, voilà, qui se languit vraiment de pouvoir rentrer chez elle. C'est difficile, la distance, la solitude. Pensez à l'église d'Aix-en-Provence. Ils ont dû tout fermer, arrêter les cultes, arrêter les réunions. La moitié du conseil presbytéral est positive au Covid. Et une bonne partie, enfin, certaines personnes dans l'église aussi ont été contaminées à travers les réunions de prière. Voilà. C'est une réalité. Il faut penser à nos églises sœurs et être solidaires dans la prière. Voilà. Je vous invite à prendre vos Bibles. Vous pouvez déjà les préparer dans le livre de Néhémie, au chapitre 8. C'est une des lectures du jour qui nous est proposée. Et avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi pour nous placer sous la direction, sous la conduite de l'Esprit de Dieu, tout simplement. Voilà, notre Dieu, nous venons à toi. Tu nous as donné de l'intelligence, un cerveau, un bon sens, une sagesse et tout ça, Seigneur, nous l'avons aiguisé au fur et à mesure de notre vie. Mais bien sûr, il y a plein de choses fausses, des mensonges que nous avons avalés, des idées corrompues qui se sont installées là. Et nous ne pouvons pas pleinement faire confiance à notre sagesse, à notre intelligence, à nos émotions. Mais nous remettons ces choses sous ton esprit, afin que toi, tu rendes toutes ces choses fiables. Voilà, nous croyons que tu vas nous bénir, que nous rentrons dans un temps de grâce pendant la prédication pour comprendre et être à l'écoute de ta parole. Merci. Amen. Donc, dans le livre de Néhémie, au chapitre 8, tout le monde connaît-il le livre de Néhémie? La petite histoire. Donc, longtemps après Abraham, celui qu'on appelle le père des croyants, le peuple s'est installé dans le pays promis, la terre de Canaan, et là, en fait, tout est allé de mal en pire. Les choses ont dégénéré, le peuple s'est complètement enfoncé, embourbé dans le péché, dans l'idolâtrie, et ils se sont mis à réclamer un roi. Ils voulaient avoir un roi pour faire comme les autres, comme les enfants qui veulent des Nike pour faire comme les autres. Dieu a accédé à leur requête et leur a donné un roi. Parmi ces rois, il y en a un qui a touché son cœur, le roi David, et il a passé une alliance avec lui en s'engageant à toujours garder un descendant de David sur son trône, le trône de Juda, et donc de faire naître le sauveur par cette descendance. Peu de temps après David, le royaume a connu une guerre civile. Deux camps se sont opposés, les 10 tribus du nord et les 2 tribus du sud. Et le royaume s'est retrouvé divisé en deux et ne s'est jamais, jamais réconcilié. Le royaume du nord, très rapidement, sera envoyé en exil par les Assyriens et les populations du nord ne reviendront jamais, elles seront remplacées par ceux qu'on appellera les Samaritains. Et le royaume du sud a tenu un peu plus longtemps, et puis il a été jugé aussi et déporté à Babylone. Et 70 années après, selon les promesses de Dieu, ce royaume du sud de Juda, il est revenu dans son pays, et il s'est mis à reconstruire les murailles de la ville. Et il s'est mis à reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été complètement détruit. Et en fait, le livre de Esdras et le livre de Néhémie sont les livres qui racontent comment le peuple est rentré chez lui et s'est mis à reconstruire la ville. Le chapitre 8 où nous allons faire notre lecture, c'est le premier culte qui qu'ils ont la joie de célébrer après les travaux. C'est un moment très important. Voilà. Ils ont réussi à reconstruire les murailles et ils célèbrent un culte pour la première fois dans la ville de Jérusalem depuis plus de 70 ans, depuis plus d'une génération en fait. Je commence la lecture, chapitre 8, verset 1. Donc tout ce peuple-là était rentré d'exil, de déportation, où ils avaient été envoyés là-bas comme punition par Dieu à cause de leur péché, de leur idolâtrie. Et là, ils écoutent la loi comme s'ils ne l'avaient jamais entendue depuis très, très, très longtemps. Le septième mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville et tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi. Moïse, le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Le sacrificateur Esdras apporta le livre de la loi devant l'assemblée, composé d'hommes et de femmes, de tous ceux qui pouvaient comprendre ce qu'ils entendaient. C'était le premier jour du septième mois. Il lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Une matinée de prédication. Vous êtes prêts pour ça ? Depuis le matin jusqu'au milieu du jour, devant la place qui est en face de la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui comprenaient. Tout le peuple était attentif à la lecture de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade en bois, dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaya, Uri, Ilkia, Maseya, et à sa gauche, Pedaya, Michaël, Malkia, Hachum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tenait debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen, Amen !» Et ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Josué bannit Chérébia, Yamin, Akoub, Shabetai, Odia, Maseya, Kelita, Azaria, Ozabad, Anan, Pelaya et les Lévites faisaient comprendre la loi au peuple. Et le peuple restait debout. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans le deuil ou dans les pleurs. » Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit, « Allez, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt. » Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Mais taisez-vous, car ce jour est un jour saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des parts et pour des parts aux pauvres et pour se livrer à des grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez le petit cantique qui dit « La joie du Seigneur est ma force, La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Les paroles viennent de là. Est-ce que vous saviez que les paroles de ce cantique sont faites pour consoler celui qui se repent? Non. Vous avez tous imaginé que ce cantique, on le chante quand la vie est difficile, quand on traverse des épreuves, quand les gens sont contre nous, quand on a des malheurs et qu'on veut retrouver le sourire. Vous n'aviez jamais imaginé que ces paroles viennent de quelqu'un qui a honte de lui parce qu'il se sent coupable devant Dieu. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Ce texte n'est-il pas étonnant ? Une église, une assemblée, plus encore que ça, un peuple. La population d'une ville rassemblée dans le temple. Alors ça, déjà, on en rêve. La population rassemblée dans le temple. Et là, voilà qu'on explique la loi de Dieu et que tout le monde se met à pleurer. Et personne n'en profite pour dire... Je vous l'avais dit, personne n'en rajoute une petite couche, histoire d'être bien sûr que la culpabilité des gens aura bien pris racine. Nous avons tellement appris à nous servir de la culpabilité pour opérer des changements chez les gens. Même pour qu'une conversion à Jésus-Christ nous paraissent authentiques, nous avons envie, nous avons besoin de savoir que la personne a été complètement écrasée par la culpabilité de son péché, n'est-ce pas ? Est-ce que tu as ressenti la culpabilité de ton péché ? Non. Est-ce que tu es sûr d'être converti, d'être né de nouveau ? Parce que la culpabilité, quand même, c'est important. Et là, le peuple est écrasé par la culpabilité. Et à quoi se précipitent les prêtres et les lévites et Esdras ? Mais non, non, non. Ne vous affligez pas. Allez, vous allez faire une... Guillaume, tu m'entends ? Vous allez faire un apéro avec des liqueurs douces, avec des viandes grasses. Voilà. Vous allez vous réjouir. Pourquoi ? Parce que vous avez compris. Et oui, ma culpabilité, elle vient de quoi ? Bon, il y a la mauvaise culpabilité, celle qui vient du péché, celle qui vient de ce que les autres me font croire que c'est ma faute alors que ce n'est pas ma faute, celle qui vient de les autres me font croire que leur colère ou leur tristesse, c'est ma faute. Hein ? Je suis responsable de vos sentiments, je suis responsable du bonheur de tout le monde. Ça, c'est faux. Je suis responsable d'être capable de parvenir à faire des choses qui sont impossibles. Voilà, il y a toute une culpabilité que notre monde nous apprend qui est fausse. Hein. Là, je parle de la vraie culpabilité, c'est-à-dire que j'ai compris que j'ai fait du mal. Il y a deux facettes, il y a la bonne et la mauvaise. Et en fait, il y a une facette positive qui est « j'ai compris ». La facette négative, c'est « ah, je pensais que j'étais meilleur que ça ». Il y a une désillusion sur moi qui me coûte d'admettre, de reconnaître. Et puis, mais cette désillusion, elle est possible parce que j'ai compris, j'ai appris, j'ai grandi dans la distinction du bien et du mal. Et surprenant de voir que cette attitude des prêtres qui se précipitent pour pointer du doigt le côté positif et dire « non, ne vous accablez pas ». Regardez, vous avez compris. Et cette parole, presque mystérieuse pour nous, la joie du Seigneur est votre force. Réjouissez-vous d'avoir compris. Réjouissez-vous d'avoir ce Seigneur-là pour Dieu. Et apparemment, alors qu'on est en train de lire la loi de Dieu et que tout le peuple comprend, mais en fait, on devait être là-bas, mais nous, on est là-bas. Le peuple comprend ça, en fait, mais le Seigneur est en joie. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se dire « Ouh là là, je suis en train de me rendre compte que je suis très très loin du chemin du Seigneur, Mon réflexe, c'est de me dire quoi? Le Seigneur est en colère, n'est-ce pas? Ouh, qu'est-ce que je vais prendre? Oh, on va dérouiller. Puis en plus, ils sont en train de revenir d'exil. Donc, ils se sont pris une rouste déjà. Hein, une punition pour le péché, c'est l'exil. Donc, ils sont là, ils ont les pétoches. On va y retourner. Mais Dieu n'est pas comme ça. Les humains sont comme ça. Nous, on est comme ça. Quand quelqu'un vient se repentir, on ne se précipite pas pour le consoler, nous. Ouais, ben, t'as intérêt à pas recommencer. Oui, je te pardonne, mais fais attention quand même. Hein. Mais tu me demandes pardon, mais est-ce que tu as bien compris ce que tu m'as fait? Oui, oui, bon, c'est facile de demander pardon. Hein. Ça fait 3 fois que tu me fais le coup. Comment notre Dieu, lui, pardonne? On va lire dans Luc chapitre 15 maintenant. Donc gardez le marque-page, peut-être Néhémie, peut-être qu'on y reviendra, je ne sais pas trop. Puis on va voir dans Luc chapitre 15, verset 1. Tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les gens qui vivent des mauvaises vies, hein, les infréquentables. Ceux vis-à-vis de qui il y a une compromission à parler. Hein, d'accord ? Si on vous voit discuter avec ces gens-là, voilà. Aujourd'hui, ça serait peut-être quoi des nés, qu'est-ce qui est intouchable à notre époque ? Voilà, des musulmans radicaux fanatiques, des néo-nazis, des... je sais pas... Voilà. On vous voit discuter à une table avec ces gens-là. Ça va tout de suite jaser. On va se dire, mais comment ça se fait que tu discutes avec ces gens-là? Il ne faut pas leur parler. Il ne faut pas leur parler. Jésus, lui, considère qu'il n'y a personne avec qui il ne faut pas parler parce qu'il considère que c'est en parlant que les cœurs changent. Donc, si on laisse ces gens qui sont dans l'erreur entre eux, eh bien, c'est sûr qu'ils resteront... Nous n'aurons rien fait pour qu'ils sortent de l'erreur. Donc Jésus, il parle avec les péagers et les pécheurs. Les pharisiens et les scribes, qui sont tellement intelligents, ils murmuraient et disaient « Ah, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux !» Donc il est pécheur. Mais Jésus leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle tous ses amis, ses voisins, leur dit « Mais réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Et de même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quand le maître de la maison se sera levé et qu'il aura... Non, ben je... Pardon, j'ai sauté une page. Je retourne ma page. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, des drachmes, c'est des pièces d'argent grec. Elle a 10 drachmes, elle en perd une. Elle allume sa lampe, elle balaye la maison et elle cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle chez elle ses amis, ses voisines et dit « Mais réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un pécheur qui se repent. Et c'est pas fini. Et Jésus dit encore, il raconte, il y avait un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de fortune qui doit me revenir. » Et le père partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils prend la fortune et part dans un pays lointain où il vivra dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays, il commençait à manquer de tout. Alors il s'engagea avec un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs pour faire paître les pourceaux. Donc, pour un juif, faire paître les pourceaux, c'est le fond du trou. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors, revenu en lui-même, il se dit « Ah, mais combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi, ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai chez mon père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Très classe comme formule. « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un esclave. » Et il se leva, il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit, il fut touché de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas… » Et là, le père lui coupe la parole. Il dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, mettez-la lui, passez-lui une bague au doigt, mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Je m'arrête là, je passe les détails sur le frère aîné, qui ne me concerne pas ce matin, qui sont intéressants aussi. Qu'est-ce qu'on voit ? Sur la relation que Dieu a à la repentance. Bon, parce qu'on parle de 99 brebis qui sont justes et d'une qui est pécheur, mais est-ce que ça parle de la conversion ou est-ce que ça parle aussi de la repentance du quotidien ? Dieu se précipite sur nous lorsqu'on se repent. Se précipite sur nous. Il y a un autre texte que je pourrais vous lire, qu'on avait lu à l'étude biblique, la formidable étude biblique qu'on est en train de faire sur les prières. C'est très intéressant. Dans le fameux psaume 32, psaume de confession de David, il dit « Tant que je confessais pas ma faute, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Nuit et jour, ta main était sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme dans l'été. Puis, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. C'est comme le fils prodigue, il dit, je retournerai chez mon père et je dirai, oui, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Blablabla. Et il fait son petit schéma, son petit truc intérieur. Et aussitôt qu'il a fait sa petite réflexion intérieure, je confesserai mes transgressions devant l'Éternel, il dit, et toi, tu as enlevé ma faute. Il n'a même pas eu le temps de se tourner vers Dieu pour lui présenter sa belle formule, qu'il avait réfléchi en lui-même, que déjà, il était pardonné. Je me tourne vers Dieu, l'intention de revenir à lui germe dans mon cœur que déjà il court à ma rencontre et se jette à mon cou. Seigneur, c'est même pas pédagogique, quoi. J'ai même pas le temps de vivre ce temps humiliant, d'abaissement, de contrition, où les mots doivent sortir et je dois les entendre. Il n'y a même pas ce... Ça ne vaut pas. C'est l'occasion que je prenne une bonne leçon, là, d'humilité, que je marche un peu sur un chemin rocailleux, que ça me... Hein? Parce que comme ça, je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Non? Non? Allez. On le pense un peu des fois, non? Ouais? Mais lui, non. C'est pas son truc. Celui qui se repent, Dieu, il n'a aucun plaisir à le voir humilié. Plus d'une fraction de seconde. La joie du Seigneur est ma force. Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quel long chemin pour nous à parcourir pour devenir capables d'accorder le pardon d'une manière aussi réconfortante que Dieu. Quelqu'un qui vient vous demander pardon. Ah, ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Écoute, viens, je t'offre un truc à boire, on va prendre un moment ensemble. On ne va pas tuer le veau gras, ça ne se fait plus trop, mais quand même, on va marquer le coup. Ça fait du bien quand on soit réconcilié. Je suis fier de toi. C'est courageux ce que tu as fait. À l'étude biblique sur le pardon, on avait parlé de ça. On avait parlé de cette culpabilité que parfois on porte et on traîne pendant des années et qu'on n'arrive pas. Et j'avais dit que souvent les parents, nous les parents, ben, il y a des fois des moments de notre vie où on n'arrive pas à être un parent à la hauteur de ce qu'on voudrait, n'est-ce pas ? Et c'est tellement difficile de se pardonner de ces choses-là. Et donc, on avait évoqué ça, on avait parlé. Et le lendemain, quelqu'un m'envoie un texto, me dit « Je suis allé demander pardon à mon fils. » Tout de suite, j'ai écrit « Bravo !» Quel courage ! Quel courage ! Et est-ce que nous aussi, entre nous, on se félicite, on s'encourage, on pointe du doigt, mais tu as su demander pardon, mais quelle maturité! Ou est-ce que, oui, bah, il était temps. Est-ce que, oui, c'est ce que tu devais faire. Hein. Je n'osais pas t'en parler, mais est-ce qu'on valorise, est-ce qu'on relève, est-ce qu'on console, est-ce qu'on fortifie, est-ce qu'on encourage, est-ce qu'on... Ou est-ce qu'on en remet une couche, histoire que la leçon soit bien retenue ? En tout cas, notre Dieu à nous, lui, il n'en remet pas une couche. Notre Dieu à nous, il se précipite, il tombe à notre cou et il pleure de joie. Notre Dieu à nous, il ne nous laisse pas dans la poussière une seconde de plus. Il est fort. Il est glorieux, ce Dieu. Il est génial. Est-ce que vous en voulez un autre ? Est-ce que vous en voulez un autre ? Mais vous allez me dire, oui, mais quand même, parfois on n'est pas sûr de la repentance. Parfois on n'est pas sûr que c'est sincère. Parfois, j'ai l'impression que l'autre, il n'a pas vraiment compris ce qui m'a fait. Hein ? Et j'arrive pas à pardonner parce que je ne suis pas sûr qu'il se rend compte du mal qu'il m'a fait. Ou parfois, je suis encore trop en colère pour pardonner. Ouais. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Et vous auriez raison de chercher à ne pas être hypocrite dans la façon dont vous pardonnez. Mais sans être hypocrite, je peux être bienveillant. Comment faire ? Il faut marcher sur le dur chemin de la vulnérabilité. Mais tellement fécond. C'est un chemin qui est pavé de, rempli de fleurs, de fruits. C'est le chemin de la vulnérabilité. On accueille. Merci pour ta demande de pardon, mais j'ai besoin qu'on en reparle. J'ai besoin qu'on en reparle parce que j'ai l'impression, je ne suis pas sûr que tu aies compris vraiment ce qui s'est passé, ce que ça m'a fait. Et si tu veux bien, j'aimerais pouvoir te le redire. Pour que, sinon, je n'arrive pas à être sûr qu'on est bien réconcilié. Je présente un besoin. Je présente une faiblesse. J'ai besoin d'être sûr. J'ai besoin de te redire. Ou alors, je ne suis pas prêt. Merci c'est trop tôt pour moi. J'ai besoin de temps. Mais la balle est dans mon camp. Je reviendrai vers toi. Mais s'il te plaît, là, je ne peux pas en reparler tout de suite. J'en parlerai mal. On reconnaît sa faiblesse. On reconnaît qu'on n'est pas encore prêt. Ce n'est pas la faute de l'autre. C'est ma responsabilité. Ce n'est pas à lui de revenir encore. C'est à moi d'envoyer un signal quand je serai prêt. Il a fait un chemin et moi, je n'ai pas encore fait ce chemin. Peut-être le mien est plus long à faire. Tout ça, c'est possible. Le pardon, ce n'est pas automatique. C'est un devoir. Pardonnez à ceux qui vous font du tort. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est un devoir. Mais rien ne nous interdit de vivre ce devoir dans le temps qui est le nôtre. Simplement, demandons-le avec douceur, finesse. Ce temps. J'ai besoin de temps. J'ai besoin qu'on en reparle. Et trouver la paix, trouver la certitude. Peut-être que l'autre, effectivement, n'a pas tout compris encore. Peut-être qu'il y a des aspects de ce qu'il vous a fait qui lui ont échappé, qu'il n'a pas saisi. Peut-être qu'il vous demande pardon et puis qu'après une longue conversation avec vous, il vous dira « Ah, mais je n'avais pas compris. Mais je te redemande pardon, mais là, vraiment, en pleine connaissance de cause. » Et alors, votre relation sera bénie, hein, je vous garantis. Hein. Ça vous fera du bien, tous les deux. Ça vous rendra grand, à tous les deux. Savoir demander pardon. Il est déjà midi, donc je vais m'arrêter là. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est saint, on l'a chanté. Hein. Toi seul es saint. Vous savez ce que ça veut dire ? En fait, t'es pas comme les autres. T'es pas comme les autres. Et c'est vrai qu'il n'est pas comme les autres. Gardez en mémoire ce dimanche, gardez en mémoire ce petit cantique. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Mais souvenez-vous, je crois que je vais faire une liste des cantiques, des versets les plus arrachés à leur contexte. Celui-là, il sera pas mal, je pense. Souvenez-vous que la joie de l'Éternel est votre force, c'est une parole qui a été prononcée pour relever des gens de la honte, de la culpabilité, pour les relever alors qu'ils se repentaient dans les larmes. La joie de l'Éternel est votre force. Quand je me sens coupable, quand je me sens minable face à Dieu, le Seigneur est en train de se réjouir parce que je comprends. Et si je comprends, je grandis devant sa face. Vous connaîtrez la vérité si vous gardez mes paroles, dit Jésus, et la vérité vous rendra libre. Cette joie-là que le Seigneur ressent pour nous, il a compris, il va grandir, il va avancer, il va être libéré. Il va se comporter en adulte. La joie de l'Éternel est votre force. Amen.